Et nous entamons une semaine d'émission spéciale du 3 au 9 mai, le joli mois de l'Europe sur RCF, l'Europe en question, tous les jours dans Midi en Normandie, avec à 11h30 le témoignage d'un acteur engagé, et à midi et quart une immersion dans les coulisses de l'Europe avec une députée européenne. Notre première invitée, eh bien, c'est une association, le Lab, dans cette semaine consacrée à l'Europe. Avec nous, Chloé Michel, secrétaire générale de l'association Le Lab Lisieux Normandie. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Le Lab, on va en savoir un peu plus. C'est un laboratoire d'idées intergénérationnelles basé dans le Pays d'Auge. Comment ça a été créé et quelle était la vocation, le but de cette association, Chloé Michel?
Alors, en fait, le Lab, c'est une association qui a été créée par Anne Blanchard, qui est à Lisieux depuis très longtemps, depuis 25 ans, qui est journaliste, et moi-même, à l'issue de diverses discussions sur que faire pour les jeunes à Lisieux, pour l'international, pour l'attractivité du territoire. Et donc, on a décidé en 2018 de créer une association qui a pour vocation première, en fait, de tout simplement faire de l'information, sensibiliser les jeunes, notamment, mais pas seulement, à ce que peut offrir l'Europe sur le territoire. Voilà.
Et alors, quels sont les publics concernés? C'est plutôt des jeunes?
Alors, c'est notre public, cible, c'est les jeunes. Après, on est la base de l'association, c'est vraiment intergénérationnel. On est on était en co-direction jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et puis, de toute façon, l'esprit est resté, c'est-à-dire de s'appuyer sur l'expérience, le réseau de personnes qui sont installées à Lisieux ou sur le territoire en général, pour booster des projets de jeunes, faciliter des rencontres avec des professionnels sur le territoire. C'est vraiment une logique de partenariat entre les générations.
Et à terme, avec le Lab, il y a un projet quand même derrière, quelque chose d'assez concret.
Oui, il y a le projet d'ouvrir un café associatif à Lisieux. Dans lequel on organiserait des ateliers, des rencontres informelles avec tous les publics intéressés sur justement les mobilités européennes, internationales, sur l'orientation. En fait, c'est un endroit qui n'est ni institutionnel. On peut parler un peu de n'importe quelle idée qu'on a en tant que jeune. Et l'objectif, c'est de se rencontrer et de tester le projet via l'association et de faciliter aussi l'accès à des fonds européens potentiellement, de mettre en fait notre expertise au service de projets pour les jeunes.
C'est une association, j'ai du mal avec ce mot, apolitique et laïque.
Absolument, oui.
Alors la dimension européenne, vous le disiez, vous incubez et accompagnez des projets de mobilité européenne. Par ailleurs, vous avez cette fibre européenne puisque vous avez bénéficié du programme Erasmus. Racontez-nous tout. Comment avez-vous baroudé dans l'Europe?
Alors, j'ai commencé par une mobilité d'un an en Allemagne, quand j'étais en troisième année d'études. Première expérience Erasmus, comme beaucoup de jeunes de plus en plus de jeunes à l'université ont la possibilité, voire l'obligation dans le cursus de passer 6 mois ou 1 an à l'étranger, donc j'ai fait ça. Et puis ensuite, j'ai voyagé via le pass Interrail, donc qui permet, c'est un billet de train européen.
On peut prendre le train partout en Europe.
Exactement. Voire même plus loin, puisqu'on peut aller jusqu'en Turquie. C'est super. Et puis, j'ai aussi eu l'occasion, pendant des années de césure, de voyager au-delà de l'Europe. Et c'est vrai que j'ai envie de partager ce que ça m'a apporté de voyager, de rencontrer des gens différents, de se heurter à des cultures qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Et c'est hyper bénéfique pour plein de choses, y compris pour le parcours professionnel.
Moi, c'est sur le plan culinaire que ça m'intéresse. Manger de la nourriture de tous les pays européens, c'est quand même quelque chose. Erasmus a évolué. On parle d'Erasmus Plus à présent. Erasmus, c'était plutôt quand on souhaitait partir étudier dans un autre pays de l'Union européenne. Mais là, Erasmus Plus, ça concerne beaucoup, beaucoup de registres.
Exactement. En fait, c'est un programme qui, depuis 2014, s'est largement étendu. d'un point de vue des publics concernés, puisque là, ça ne concerne plus seulement les jeunes, c'est vraiment tout public.
C'est-à-dire que moi, vu mon âge canonique, je peux faire de l'Erasmus+.
Absolument, tout à fait. Tous les professionnels sont invités. Et en fait, ce qui est incroyable sur ce programme, c'est que donc, la programmation européenne, c'est sur 7 ans. Le budget de l'Union, c'est 7 ans de programmation. Et la programmation 2021-2027, donc, qui est la nouvelle programmation sur les finances, a vu le budget, a décidé d'augmenter le budget Erasmus+ de 80%, ce qui est absolument considérable par rapport à la programmation précédente 2014-2020. Donc l'objectif vraiment de la Commission européenne, c'est que énormément de publics en Europe bénéficient de fonds pour justement partir, puisque Erasmus+, c'est complètement gratuit, c'est-à-dire que ça ne coûte rien aux participants, et c'est une mobilité qui peut être de une semaine, de 6 mois, de 3 mois, de 2 semaines, enfin, c'est très très large, c'est sur tous les sujets, et ça s'adresse aux professionnels de la jeunesse et aux jeunes en particulier, oui. Mais aussi d'autres,
à d'autres... Dites-le.
Aux personnes expérimentées.
Voilà, c'est joliment dit. Chloé Michel, je rappelle que vous êtes secrétaire générale de l'association Le Lab Lisieux Normandie, basée dans le Pays d'Auge. Alors, je suis jeune lexovien. Normand, européen, vous me donnez la parole, il y aura un espace de liberté, de réflexion et d'échange, de construction du territoire. Comment concrètement aidez-vous ces lexoviens à partir, à élaborer un projet européen?
Ben déjà, on les rencontre, on leur propose de se rencontrer, alors via Zoom s'il faut, mais surtout quand on aura en le café, moment, ouais. Et on espère autour d'un café. Et puis on discute du projet, on aide au montage du projet s'il y a besoin, ou en tout cas on explique comment ça fonctionne. C'est vraiment d'une manière très ouverte et on s'adapte. En fait, laboratoire d'idées, ça veut dire qu'on est hyper ouvert et qu'on s'adaptera au projet des jeunes, et on fera le maximum pour mettre... pour faciliter en fait leur mobilité, voilà, que ce soit pas quelque chose de super compliqué à faire. Et nous, on a aussi un réseau international qui permet de les mettre rapidement en relation avec des gens en lesquels on a confiance, puisqu'on les a déjà rencontrés dans beaucoup de pays, dans une vingtaine de pays.
Le public concerné, justement, ces jeunes, ils ont une vision précise de l'Europe, ou il y a une méconnaissance?
Bah, c'est difficile à dire, j'ai pas envie de faire de généralité. Je pense que l'Europe, c'est un peu ambivalent. À la fois, on a l'impression que c'est hyper compliqué, et puis bah, en fait, il y a des moments où on se dit bah, finalement, c'est pas si compliqué. Ouais. Quand on l'a expérimenté, voilà, via le voyage, via. Comme moi, j'ai eu la chance de le faire, je trouve que tout à coup, on comprend qu'en fait, c'est d'une simplicité extrême pour rencontrer des gens. Donc, on a vraiment envie de faire passer ce message-là aussi aux jeunes. Sur le territoire localement, mais aussi partout en Normandie, puisque l'idée, c'est aussi de faire rayonner notre petit territoire, mais qui est relativement bien placé sur la carte. Mmh. C'est assez central, Lisieux, finalement, et donc on espère bien attirer aussi d'autres publics.
Lisieux dans le Pays d'Auge. Par ailleurs, Chloé Michel, vous êtes auto-entrepreneuse, pardon, vous faites bénéficier ce public de votre expertise?
Au maximum, oui. La première chose qu'on a faite avec le Lab en 2020, c'est de proposer des ateliers sur la citoyenneté et sur la citoyenneté européenne dans les écoles à Lisieux, et puis on espère sur l'agglomération Lisieux-Normandie et voir ailleurs. Et donc c'est aussi l'objet de mon objectif professionnel, c'est vraiment de faire bénéficier de... qu'est-ce que c'est l'Europe, comment est-ce qu'on peut participer, comment est-ce qu'elle intervient dans notre quotidien, parce que pour avoir un peu voyagé dans d'autres pays européens, je trouve que les mentions de l'Europe en France sont pas fréquentes, et quand elles le sont, elles sont assez... Enfin, renvoie à quelque chose de complexe et de pas forcément positif. Voilà,
on pense plutôt aux problèmes,
c'est
par
ça,
exemple,
exactement.
Avec la pêche dans les eaux territoriales britanniques, ou voilà les impacts au niveau agricole et les normes que nous on voit comme ça. Ça se décide en Europe, mais alors vous expliquez un petit peu comment marche par exemple le Parlement européen?
Dans la mesure où l'association est apolitique, ce qu'on fait, c'est donner un niveau d'information le plus neutre
possible.
De toute façon, c'est même pas le plus... On est neutre par essence. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre. Donc, les ateliers qu'on a proposés, c'était à des CM2, donc entre 9 et 11 ans. Et donc, c'est vraiment l'idée de se dire, on est citoyen européen. en tant que citoyen français. Pourquoi ? Comment ça fonctionne ? C'est quoi l'histoire ? Et au niveau local, parce qu'en fait, à cet âge-là, le maire, le député, on a des notions, mais c'est des choses qui sont encore abstraites. Donc, ce qu'on fait, c'est vraiment informer et sensibiliser sur quelles sont les échelles de citoyenneté. On est obligé d'être citoyen européen, on n'a pas le choix, en fait. Et donc, un enfant n'est pas encore citoyen, mais potentiellement, il aura la citoyenneté européenne automatiquement. Et on peut se demander pourquoi. Enfin, je trouve qu'avec les enfants, c'est hyper important d'expliquer pourquoi et d'où ça vient. Donc, c'est ce qu'on tente de faire, oui.
Voilà, les enfants, les jeunes et aussi les personnes expérimentées, comme
Absolument.
Vous dites, Chloé Michel. Le Lab à Lisieux, comment on peut faire pour rentrer en contact avec vous ?
Alors, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, le Lab Lisieux, et sur Facebook. Donc, on a une page qui s'appelle...
Le Lab Lisieux Normandie.
Exactement. Et puis, par téléphone, mail, toutes nos coordonnées sont sur les réseaux sociaux. Donc, je peux aussi donner le mail si...
Oui, allons-y.
Donc, c'est le Lab Lisieux Normandie, tout attaché, @gmail.com.
Pour conclure, vous encourageriez les jeunes à voyager, à partir en Europe et même à développer un projet, pourquoi pas professionnel ?
C'est tout l'enjeu de notre association, c'est vraiment d'encourager à la mobilité, même sur des courtes durées, encore une fois, et même si on ne parle pas bien anglais, ce n'est pas un souci. C'est de toute façon, on se retrouve avec des publics qui ne parleront pas bien anglais non plus, et l'objectif, c'est justement de se lancer et de découvrir. Après, j'en dis pas plus parce que c'est tellement personnel comme expérience que faut avoir la curiosité de le faire.
Vous restez avec nous. Au niveau cuisine européenne, laquelle à votre faveur ?
Ouais, je vais dire la cuisine norvégienne.
Ah.
Même si c'est surtout le pays qui me... Voilà, c'est le premier pays européen et qui n'est pas de l'Union européenne, mais qui est quand même sur notre continent, et je suis très contente que ce soit le cas.
Eh bien, on part en cuisine tout de suite. RCF. Du 3 au 7 mai, dans Midi en Normandie, vous le savez, c'est l'Europe en question, avec aujourd'hui le témoignage d'un acteur engagé. On retrouve Nicolas Lebec, il est responsable du pôle action sociale de la CAF du Calvados, la caisse d'allocation familiale. Bonjour Nicolas Lebec.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut rappeler tout d'abord ce que c'est que la CAF, la caisse d'allocation familiale, dans les grandes lignes ?
Oui, alors en deux mots, la CAF est une institution qui verse des prestations familiales, hein, que l'on retrouve auprès des aides au logement ou des aides à la naissance, etc. Et puis également un versant qu'on connaît un peu moins, qui est le versant action sociale, c'est-à-dire un engagement sur les territoires avec une politique jeunesse, hein, qui se décline avec le financement de centres sociaux, de centres d'animation, de MJC, etc. Et donc on œuvre, c'est le principal financeur dans l'action jeunesse sur les territoires.
Alors justement, vous, Nicolas Lebec, vous venez d'évoquer les fameux centres sociaux. Va y avoir des animations dans 24 centres sociaux normands sur la sensibilisation à l'Europe. Qu'est-ce que c'est qu'un centre social ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Qu'est-ce que vous y faites ?
Alors, un centre social, c'est un carrefour un petit peu des projets. C'est à la fois un endroit où on va retrouver une notion de service, c'est-à-dire un service à la population de proximité. La plupart des centres sociaux sont au cœur des quartiers ou au cœur des territoires bien repérés par la population. On y vient faire des démarches administratives, des rendez-vous avec un travailleur social si besoin, mais également pourquoi pas renouveler une carte d'identité ou bref, faire tout un accompagnement, une recherche d'accompagnement, que ce soit numérique ou dans la vie quotidienne. Mais on y trouve aussi un endroit où on peut rencontrer d'autres habitants d'un même quartier et où se fédèrent de débuts de projets, hein, des projets de départ en vacances, des projets d'animation de quartier, ce qu'on appelle chez nous l'animation de la vie locale, c'est-à-dire on apprend aux personnes de s'engager pour leur environnement et puis de favoriser le lien social avec les autres.
Donc voilà, favoriser le lien, et puis c'est vraiment des actions de proximité. Alors moi, quand je dis proximité, je pense au quartier, mais alors pourquoi sensibiliser à l'Europe ?
Alors, on s'est aperçu, hein, que dans les quartiers sur lesquels on est implanté, hein, vous avez évoqué les 24 centres sociaux sur le Calvados, mais on en a essentiellement sur des quartiers prioritaires, ce qu'on appelle les prioritaires politiques de la ville. Donc sur Caen, on va retrouver la Guérinière, la Grâce de Dieu, le Chemin Vert, la Pierre Rosée, pour ne citer que, et dans lequel on s'aperçoit que l'identité européenne arrive très peu, ou alors de façon très éloignée. L'Europe, c'est pas pour nous, c'est ce qu'on entend souvent. l'Europe, c'est compliqué, etc. Et notre travail, c'est de vulgariser, entre guillemets, l'Europe au quotidien, dans ce que les personnes peuvent ressentir de l'Europe hein, tous les jours. Eh bien, ils ont ne serait-ce qu'un euro dans la poche, c'est un choix de l'Europe. Et puis aussi des aides qu'ils peuvent obtenir ou alors des constructions qu'on retrouve au cœur des quartiers. Hein. Ça va d'un simple gymnase en passant par la rénovation urbaine de la place du commerce, par exemple.
Ou le tramway. Enfin, voilà, il y a des applications très, très locales de décision européenne. Est-ce que vous incitez ou plutôt vous renseignez aussi ce public sur le fait qu'on peut voter, par exemple, pour des élections européennes ?
Alors effectivement, lors des précédentes élections européennes, on a eu toute une démarche avec des partenaires. Alors parce que la CAF n'a pas vocation à être un acteur européen. Par contre, on vient s'inscrire dans un schéma de partenaires hein, avec le Créant que vous recevez, ou également le CITIM, une association de mobilité internationale. Et donc, nous, on fait juste ce lien-là pour que, avec des outils d'animation je parlais tout à l'heure de vulgariser un petit peu l'Europe, ce soit sous forme de quiz, sous forme d'ateliers cuisine, etc. On trouve un prétexte pour parler de l'Europe et de rappeler les enjeux des élections européennes. Alors, il y a aussi des rencontres, tout simplement, avec la députée européenne, hein, Stéphanie Yoncourtin, qui est déjà venue à plusieurs de nos actions, parce que ça permet de mettre un nom, de mettre un visage en face de fonction, et elle vient raconter ce qu'elle fait et ce qu'elle défend sur le territoire. Donc ça, c'est, on a ce rôle de facilitateur et de lien, encore une fois, on retrouve cette notion de lien, entre les habitants d'un quartier ou d'un territoire, et puis les instances européennes.
Vous parliez de lien, beaucoup de communes sont jumelées avec d'autres communes d'autres pays européens, justement, il y a une visibilité là aussi, quand une ville est jumelée avec une commune d'Angleterre ou une commune d'Allemagne.
Alors oui, effectivement, on fait toute une démarche on s'appuie sur les réseaux d'échange entre les jeunes, mais aussi un échange des comités de jumelage, par exemple. Parce que quand il y a des dynamiques sur les territoires, on s'appuie sur ce qui se fait. Et effectivement, ça nous est arrivé de faire soit des rencontres sportives, soit de faire un trajet à la bibliothèque pour aller regarder ce que c'était que la culture. Vous parlez de l'Angleterre, mais j'ai aussi en tête l'Allemagne, avec qui on a déjà fait quelques actions. Donc effectivement, on s'appuie sur des dynamiques déjà existantes et on les fait vivre, voire on vient apporter notre pierre à l'édifice. Bon, je prends l'exemple de comité de jumelage où on essaye aussi de participer à orienter des personnes vers les comités de jumelage pour renouveler aussi ces comités de jumelage et puis d'avoir une approche beaucoup plus intergénérationnelle en fait.
Toujours ce lien. Nicolas Lebec, je rappelle que vous êtes responsable du pôle action sociale de la CAF du Calvados, caisse d'allocation familiale. Mon exemple de l'Angleterre n'était pas très bon puisque ils ont quitté l'Union européenne. Il y a eu le fameux Brexit. C'est des choses que vous avez des retours de ça avec ce public concerné. Vous allez en parler ça de ce Brexit?
Alors, pour tout vous dire, on va attendre un peu d'en parler parce qu'on voulait laisser un peu de temps. Hein. Quand on dit un peu le temps, c'est de regarder les incidences. Le sujet que l'on a pu aborder dans un centre social, c'était de dire, avec l'arrivée du Brexit, nos pêcheurs de Port-en-Bessin pourront plus aller pêcher dans les eaux anglaises.
Voilà.
Un sujet qui est ressorti. Donc, on a dû un peu décortiquer et puis on va revenir là-dessus pour apporter un petit peu de hauteur à une discussion comme celle-ci. Alors, quand je dis un peu de hauteur, c'est avec des interlocuteurs alors que ce soit politique ou économique, hein, d'ailleurs, hein, pour venir évoquer ce genre de choses. Et ça a quoi comme incidence si on ne peut plus aller pêcher dans ces zones-là? Est-ce que c'est des incidences sur le coût du poisson qu'ils vont acheter à la poissonnerie? Est-ce que sur le travail des pêcheurs? Donc on met en place un petit peu ces moments de discussion et de médiation. Alors que je disais un acteur politique, par exemple, on sait que Stéphanie Yoncourtin a défendu cette démarche-là auprès de l'Europe. Donc ça peut être elle qui va être invitée à un moment donné pour prendre son exemple. Par contre, l'exemple anglais était un bon exemple quand même parce que les personnes ont dû expliquer pourquoi les Anglais ont voulu sortir de cette grande famille qu'est l'Europe. Donc là, on revient sur des notions d'histoire et ça nous intéresse bien parce que la plupart des gens qu'on a rencontrés nous disent on avait pu faire des échanges, on allait en Angleterre faire des échanges avec des collégiens ou des lycéens, et peut-être que ça pourra plus se faire, etc. Alors ce qui nous permet de parler de dispositifs derrière en disant vous voyez, il y a Erasmus qui existe, donc vos jeunes pourront partir, etc.
Voilà, il y a cette question de mobilité aussi au sein de l'Union européenne, bon, qui a été fortement impactée dernièrement avec la crise sanitaire, mais vous pouvez renseigner ces jeunes, puisque vous parlez de jeunes, à leur donner des trucs pour bouger en Europe?
Alors oui, tout à fait. Alors on s'appuie encore une fois sur des partenaires locaux, le CRIJ, hein, le Centre Régional d'Information Jeunesse, le CITIN dont je l'ai évoqué tout à l'heure et le CREAN. Et puis avec des exemples très concrets, à partir du mois de septembre, on fait venir 4 jeunes qui vont être en service civique international, donc 4 jeunes étrangers, d'autres Européens, qui vont venir au cœur de nos centres sociaux, hein, que ce soit Hérouville-Saint-Clair, à la Guérinière, au Chemin Vert par exemple, et qui vont venir passer une mission de service civique pendant une dizaine de mois, et qui vont venir à travers ça parler à d'autres jeunes, mettre en place des animations avec, pour nous, l'enjeu derrière, c'est de donner envie à des jeunes de ces quartiers-là de partir en disant, regardez, c'est possible, avec un accompagnement, c'est possible de partir, que ce soit en Lituanie, que ce soit en Autriche, que ce soit en Allemagne, pourquoi pas, parce que regardez, d'autres jeunes de votre âge l'ont fait. Donc on expérimente ça, on rend visible ce témoignage, et notre idée, c'est d'emmener des jeunes de ces territoires, encore une fois, éloignés de ces dispositifs européens, de les emmener vers ces pays et vers ces échanges.
Un grand merci à Nicolas Lebec de nous avoir présenté ces actions, ces animations de sensibilisation là, dans les centres sociaux normands pour la sensibilisation à l'Europe. Je rappelle que vous êtes responsable du pôle action sociale de la CAF du Calvados, la caisse d'allocation familiale. Dernière question, quelle est votre destination préférée, vous, en Europe?
Alors moi, je suis plutôt vers les pays slaves, tout ce qui est pays autour de l'ex-Yougoslavie. Moi, j'aime bien ces régions-là, en fait.
Voilà, donc,
pour à la fois le climat, la montagne, on y retrouve les deux.
Eh bien, grand merci pour ces suggestions de voyage.
D'accord. Merci à vous et bonne continuation et bonne semaine à l'Europe. Alors.
Bonne semaine à vous également, Monsieur Lebec. Merci. Au revoir.
Au revoir, merci.
RCF.
Et vous le savez, toute cette semaine, on accueille des acteurs engagés pour l'Europe en question. C'est jusqu'au 7 mai dans Midi en Normandie. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Lucia Gonzalez. Lucia Gonzalez est chargée de mission Europe au Centre d'information Europe Direct. Avec elle, on va évoquer les actions jeunesse et on en saura un peu plus sur son parcours européen également. Lucia Gonzalez, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes au CRIJ et également à Europe Direct. Le CRIJ Normandie, déjà c'est un peu barbare. Qu'est-ce que ça veut dire le CRIJ?
Alors les CRIJ, ça veut dire les Centres Régionaux d'Information Jeunesse. On est une association loi 1901 et notre mission c'est d'informer, accompagner, renseigner les jeunes sur tous les sujets qui peuvent l'intéresser. Que ce soit sur l'orientation, sur la recherche d'un job d'été, d'un job étudiant, du logement,
sexualité aussi,
santé. Et notamment, on a un pôle Europe et mobilité internationale qui obtient plusieurs labels, dont le label Europe Direct, qui est un label de la Commission européenne, qui nous permet de renseigner tous les citoyens, n'est pas que les gens. Ce label, c'est vraiment tout public cible pour répondre à ces questions sur l'Union européenne, que ce soit sur les politiques, sur les compétences, sur les différents programmes ou voilà. N'importe quelle question, on est là pour y répondre.
Alors, autant dire que vous êtes européenne pur jus, vous.
Voilà, tout à fait.
Vous êtes espagnole, par ailleurs,
oui.
et vous travaillez en France depuis 2018.
Alors, j'ai commencé au CRIJ depuis 2018, en France depuis 2016.
D'accord. Alors, on va essayer de présenter un petit peu les actions du CRIJ et Europe Direct. Et d'après vous, quelle est la place pour la jeunesse dans les politiques européennes?
Alors, il faut savoir que l'Union européenne, elle est compétente en matière de jeunesse, notamment dans les domaines de l'éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et les sports, grâce à l'article 6 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Elle peut légiférer, mais cette compétence est limitée, car elle vient en appui à coordonner ou compléter l'action des États membres.
Alors, pour ces actions, quelles sont les répercussions locales? Par exemple, je suis un jeune de Caen et je souhaite avoir une aide à la mobilité en Europe. Est-ce que je peux m'adresser à Europe Direct ou au CRIJ directement?
Oui, bien sûr. On renseigne sur particulièrement sur la mobilité européenne, mais aussi internationale. C'est-à-dire pour ceux qui veulent partir travailler, voyager, faire un stage, que ce soit en Europe ou partout dans le monde.
Alors, depuis quand l'Union européenne s'intéresse-t-elle aux jeunes? Est-ce qu'il y a quelques dates clés et des dispositifs qui concernent justement cette relation entre l'Europe et la jeunesse?
Oui, effectivement. Alors, les politiques de jeunesse ont connu un essor avec l'accord de Schengen en 1985, qui a permis, bon, les jeunes et tous les citoyens européens de travailler, de voyager ou d'étudier à l'étranger. Ensuite, le développement de cette politique s'est accru avec la signature du traité de Maastricht en 1992, en établissant la citoyenneté européenne, il vient à accélérer le développement de ces politiques. Alors, c'est quoi les premiers grands programmes connus?
Oui, les grands dispositifs.
En Europe, mais c'est les programmes Erasmus,
oui, voilà.
Qui est né en 1987. Et à la base, ce programme, il était destiné aux étudiants pour leur permettre de réaliser un semestre ou une année d'études à l'étranger, dans un pays européen.
Et ça s'est élargi ensuite à d'autres tranches d'âge?
Voilà. Alors ensuite, Erasmus, il a connu une évolution jusqu'à ce qui est aujourd'hui les programmes Erasmus+, qui concernent les lycéens, les apprentis, les personnels. Voilà, c'est vraiment un programme qui s'est ouvert à tout le monde. Et il y a d'autres dates, d'autres programmes clés. Par exemple, en 1996, né les services volontaires européens, qui est un programme qui permet aux jeunes, cette fois-ci parce qu'il y a une tranche d'âge 18-30 ans, de réaliser une mission de volontariat dans un pays européen ou partenaire. On n'est pas fermé que dans les pays de l'Union européenne.
Voilà. Ouais,
il y a la possibilité d'aller dans les pays voisins, dans les pays partenaires de ce programme.
D'accord.
Et aujourd'hui, il a évolué depuis 2016. Il s'appelle les corps européens de solidarité.
Alors justement, on va essayer d'approfondir. Qu'est-ce que c'est que ce corps européen de solidarité? Est-ce que vous pourriez nous le décrire?
Oui, alors ça permet aux gens, comme j'ai dit tout à l'heure, des 18 à 30 ans, de réaliser une mission de volontariat. En fait, c'est un peu comme l'équivalent, on va dire, du service civique français qu'on connaît un petit peu plus. Et on peut réaliser une mission d'intérêt général dans son association ou dans son collectivité, dans un pays européen ou dans un pays tiers.
Alors, avant d'en savoir un peu plus sur vous, votre parcours européen, on va écouter un témoignage. C'est le témoignage de Maya. Est-ce que vous pouvez nous la présenter?
Oui, alors Maya, elle est précisément en corps européen de solidarité au Crèche Normandie. C'est une jeune, elle a 19 ans, allemande, qui est venue en septembre jusqu'à sa mission, s'est finie au mois de juin, une mission de 9 mois. Et elle nous aide au Crèche avec les actions de jeunesse, pour favoriser, pour parler des mobilités, de la culture, de son pays.
Eh bien, on l'écoute tout de suite.
Salut, je m'appelle Maya, je viens de l'Allemagne et j'ai 19 ans et je fais un volontariat européen au CRI de Normandie Europe Direct. Alors, le Corps européen de solidarité, c'est un dispositif mis en place par l'Union européenne pour organiser des volontariats au niveau européen pour les jeunes européens. Et c'est l'Union européenne qui prise en charge toute l'organisation. Alors d'abord, je le choisis pour faire un volontariat en Europe parce que tu peux postuler pour plein de différents projets en toute l'Europe. Et après, quand tout est pris en charge, c'est très pratique pour nos jeunes. En plus, j'étais en retard avec mon organisation de faire un volontariat, donc ça s'est tombé très bien comme on doit presque rien organiser. Alors d'abord, ça m'a permis d'apprendre le français. Après, j'avais la chance de vivre à l'étranger pour une année toute seule et ça m'a fait grandir énormément. Aux jeunes qui s'intéressent à faire un volontariat, je dirais que c'est toujours bien de s'informer bien en avance. Par exemple, on pourrait lire des rapports, des expériences pour savoir ce qu'on doit attendre d'une expérience comme volontaire.
Le témoignage de Maya à l'instant volontaire allemande. Alors on a bien compris hein, ce qu'était le corps européen de solidarité, là une application pratique. Elle conseille justement aux autres jeunes Ben voilà, de bouger en Europe, hein, de se frotter à d'autres cultures. Vous, votre parcours européen, Lucia Gonzalez, je rappelle que vous êtes chargée de mission Europe au Centre d'information Europe Direct, au CRIJ. Ça a débuté comment, votre parcours ?
Alors, moi, je viens de Malaga et j'ai fait mes études à Grenade. Il faut savoir que Grenade, c'est la ville, l'université de Grenade, c'est celle qui envoie et reçoit les plus d'étudiants Erasmus partout en Europe. Plus oui. de 2000 étudiants envoyés chaque année.
C'est parce qu'on a un film en France qui s'appelle L'Auberge espagnole et on était très contents de voir qu'on pouvait bien s'éclater en Espagne.
Exactement. après L'Auberge espagnole, il se passe à Barcelone.
Ah ouais, c'est pas Grenade. Ouais, ouais.
Et du coup, j'ai eu cette opportunité de partir en Erasmus. J'ai toujours, quand j'ai fait mon cursus, j'ai pensé à ça. Je suis partie en Florence, en Italie. Pendant un an, j'ai fait mes études à l'étranger, ce qui m'a permis ensuite de faire une expérience au pair en été. J'ai enchaîné mon Erasmus avec fille au pair, c'est-à-dire babysitter, garder les enfants d'une famille enfants, ouais. pendant la période d'été en échange des logements et nourriture. Et après, quand je suis retournée à Grenade, j'ai redécouvert ma ville. C'était parce que j'ai rencontré les Erasmus, j'avais un colloque italien et ça m'a permis, même rien que marcher dans la rue et regarder les bâtiments d'une autre façon que je n'avais jamais conçu avant, après 3 ans, tous les jours dans la même ville.
Redécouvrir sa ville, ouais, c'est fou ça. Ouais.
La ville, les gens, être plus ouvert d'esprit, avoir envie d'aller vers les autres. Et ensuite, je me suis dit, la France est à côté, comment ça se fait que je ne la connais pas ? Du coup, j'ai fait un deuxième Erasmus parce que j'ai fait une double cursus, du coup j'avais cette possibilité. Et j'ai fait un deuxième Erasmus à Caen.
D'accord.
Et voilà moi toujours encore ici.
Et vous êtes restée ici, c'est un beau parcours, hein, Lucia Gonzalez. Pour conclure, il existe l'association Erasmus International à Caen, avec un parrainage et le programme Bienvenue à Caen. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, tout à fait. L'association Erasmus International à Caen accueille les étudiants étrangers, pas que les Erasmus, hein, tous les étudiants étrangers, parce qu'il y a les programmes Erasmus, mais il y a d'autres programmes de mobilité. Il y a des accords bilatéraux entre les différentes universités. Et ça permet, ils organisent des sorties culturelles au Mont-Saint-Michel, à Étretat. Ça permet de créer une vraie connexion des groupes, des différents étudiants étrangers, mais aussi avec les Français. Parce que grâce à ces systèmes de parrainage, il met en relation les étudiants qui viennent juste d'arriver à Caen, qui ne connaissent rien, qui ne parlent pas beaucoup français.
Le logement, tout ça, oui.
Voilà, tout à fait, avec des étudiants qui ont envie de partir plus tard ou qui sont déjà partis et qui ont envie d'accompagner, d'aider les nouveaux arrivés.
Ça, c'est vraiment intéressant. Il y a une notion aussi de famille d'accueil, il me semble.
Oui, ça, c'est Bienvenue à Caen. C'est une association, c'était une grande découverte pour moi parce que c'est une association des bénévoles, mais qui est hébergée ou qui est en partenariat avec la ville de Caen. Et ça met en relation les étudiants étrangers avec des familles. Et ça permet de découvrir la culture française, aller dîner dans une famille française, genre tu as ta famille d'accueil, on va dire, et vous organisez, vous faites des activités ensemble, aller au cinéma, rencontrer les enfants, parler dans différentes langues, et il y a des vrais liens qui peuvent se créer. Moi, ma personne de famille d'accueil, c'est toujours mon amie, et voilà, c'est magnifique.
Voilà, l'ouverture, l'enrichissement, en contact avec d'autres cultures, c'est vraiment ce que vous développez à Europe Direct et au CRIJ. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, CRIJ Normandie.
Tout à fait.
Et on peut également vous voir quand ce sera un peu permis, quand il y aura un peu plus de circulation en raison de la crise sanitaire.
Alors, on a les Facebook CRIJ Normandie, on a les Facebook Europe Direct Normandie Caen et on est ouvert du mardi au vendredi de 13h à 18h. Maintenant, on est toujours ouvert au public, bien sûr avec le respect strict des différentes mesures sanitaires.
Et c'est à quand ?
Et c'est à Caen. Alors, c'est à Caen, mais on a aussi des locaux à Rouen, parce qu'on est à Caen et à Rouen.
Lucia Gonzalez, un grand merci pour votre témoignage et nous avoir justement expliqué tout ce que vous faites à Europe Direct et au CRIJ.
Merci beaucoup, merci à vous.
RCF. Et nous retrouvons à présent notre invitée normande du jour. Vous le savez, du 3 au 9 mai, c'est le joli mois de l'Europe et une semaine d'antenne spéciale sur RCF, l'Europe en question. Et aujourd'hui, le témoignage d'un acteur engagé, ou plutôt d'une actrice engagée. On va en parler tout de suite avec donc Bénédicte Feugère. Elle est responsable du CREAN, Carrefour Rural Européen des Acteurs Normands. Bénédicte Feugère, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez de Vire, précisément, où les auditeurs peuvent nous entendre sur le 96.1, puisque c'est l'un des sièges du CREAN. Le CREAN, ça veut dire Carrefour Rural Européen des Acteurs Normands. Je commence à m'y perdre un peu, il y a beaucoup de choses. Hein. On a eu des invités toute cette semaine, alors si je récapitule, il y a le CRIJ, Europe Direct Normandie, et le CREAN dans tout cela. C'est quoi votre spécificité ?
Et bien, du coup, avec nos collègues du CRIJ, nous faisons partie de la même famille, la famille des centres d'information sur l'Europe, labellisés par l'Union européenne. Le label, c'est Europe Direct. Donc, en Normandie, en fait, on est 3 centres d'information Europe Direct. Le plus ancien, c'est le CREAN, en effet. Évidemment, il y a le CRIJ, avec le siège à Caen pour Europe Direct et l'antenne à Rouen. Et puis, on a aussi un troisième collègue qui est à Évreux, à la Maison de l'Europe de l'Eure. Et donc, notre travail, justement, voilà, c'est d'informer sur l'Union européenne. Et on a une plus grande famille encore. On fait partie des 424 centres d'information Europe Direct sur tout le territoire de l'Union européenne. Donc, on vit pleinement l'Europe à travers aussi notre métier.
Voilà, centre d'information, il y a le volet jeunesse avec le CRIJ, et ça vous permet, vous parliez un des différents sièges dans l'Eure, il y a des choses à Rouen, ça vous permet de bien mailler le territoire normand ?
Tout à fait. Donc ça nous permet vraiment de travailler en réseau les 3 centres Europe Direct. Voilà, en faisant un petit peu, si on regarde la Normandie, un trapèze. Évidemment, on est notre première volonté, et c'est la volonté de l'Union européenne, c'est de rapprocher l'Union européenne des citoyens. Et donc l'Union européenne, c'est pas simplement Bruxelles, c'est pas simplement Strasbourg. C'est bien pour ça qu'on est vraiment sur les territoires. Et on joue aussi sur notre spécificité, c'est aussi la force aussi du travail en réseau, mailler le territoire, mais aussi utiliser les compétences dans chacune de nos structures. Par exemple, vous avez reçu ma collègue Lucia du CRIJ. CRIJ est Centre Régional d'Information Jeunesse. Et évidemment, si on a besoin de plus d'expertise sur la jeunesse, si un jeune vient nous voir et si on a encore besoin de plus d'expertise, évidemment, on va appeler notre collègue et voilà, on va faire le lien. Inversement, si notre collègue a une collectivité, une commune, une communauté de communes ou une entreprise ou une association qui cherche des fonds européens pour concrétiser ses projets, eh bien, va plutôt revenir l'envoyer vers nous, la recevoir déjà ou l'avoir au téléphone et la guider vers nous pour qu'on détaille un petit peu plus.
Voilà, donc il y a un vrai partage, une mutualisation des compétences et ce système de réseau.
Oui, tout à fait, c'est important. Réseau et partenariat aussi. Parce qu'on est en effet 3 centres Europe Direct, comme je le disais, mais on ne peut pas seul faire l'information parce qu'on est des toutes petites équipes. C'est la force aussi du partenariat. C'est-à-dire que vous avez reçu, par exemple, Nicolas Lebec de la CAF. On travaille avec la CAF qui souhaite vraiment renforcer justement l'engagement citoyen européen aussi et la connaissance de l'Europe. On travaille avec, évidemment, je parlais des collectivités, avec les communes, les communautés de communes, les conseils départementaux, évidemment la région aussi. Donc voilà, c'est même des partenariats très très locaux, comme sur des jumelages par exemple. Voilà, on apprécie justement ce partenariat-là pour agir ensemble auprès des citoyens et sur des territoires bien précis.
On va parler du CREAN, hein. Vous allez nous présenter ses racines territoriales et rurales. Alors c'est le premier centre d'information sur l'Union européenne créé en Normandie. Ça remonte à quelques années déjà.
Au siècle dernier. on a été créé par deux acteurs justement ruraux qui sont le lycée agricole de Vire et le centre d'économie rurale du Calvados à l'époque. C'était c'est devenu le CERF France, tous deux, dans les années 80, 90, travaillaient avec les fonds européens pour les élèves, pour les salariés du CER, pour des échanges aussi. Moi, quand j'ai commencé, en 97, quand je suis arrivée au Créant, dans cette association toute nouvellement créée, eh bien, le premier jour où je suis arrivée, il y avait un colloque avec plein de au lycée agricole, avec plein de partenaires européens, et qui travaillaient déjà sur les déchets. C'est un colloque sur les déchets, un colloque transnational et soutenu financièrement par l'Europe. Donc voilà, ils ont voulu créer cette association-là pour ne pas... Voilà, à l'époque, c'était que des initiés, entre guillemets, et pour pouvoir faire participer notamment la société rurale normande à l'Europe et en bénéficier.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler à présent du label Europe Direct, Bénédicte Fogère ?
Oui, et en plus, une nouvelle, puisque même si, en effet, nous, on est un des premiers centres d'information sur l'Union européenne avec le label de l'Union européenne, à chaque fois, nous aussi, on est des porteurs de projets. À chaque fois, on candidate aussi. Hein, et on vient d'avoir la sélection du réseau Europe Direct 2021-2025. Donc, on est reparti jusqu'à 2025. Donc, c'est vraiment l'Union européenne. Alors, évidemment... C'est la Commission européenne avec qui on est en direct, on travaille en direct. La Commission européenne qui a aussi sa délégation en France, sa représentation en France, bien sûr. Mais elle nous laisse vraiment traiter l'information européenne, dialoguer avec les citoyens en fonction vraiment des besoins exprimés des territoires, encore une fois. L'envie n'est pas de dire, on envoie de l'information, vous promouvez l'Europe de telle et telle manière. Non, elle nous laisse libre de faire notre propre communication Europe et relayer, dialoguer avec les citoyens.
Bénédicte Fogère, je rappelle que vous êtes responsable du Créant. On l'a compris, 3 Europes directes en Normandie, le Créant, Carrefour rural européen des acteurs normands, le CRIJ Normandie et la Maison de l'Europe de l'Eure. Lorsque nous avions reçu cette semaine, votre collègue de la CAF, il nous disait, dans les centres sociaux, souvent ce qui revenait, c'était « Oh, l'Europe, c'est lointain, c'est pas pour nous ». Avez-vous noté une évolution, justement, de cette connaissance de l'Europe au fur et à mesure des années, de vos années passées au Créant ? Là, on est en territoire rural, plutôt.
Oui. En territoire rural, je dirais qu'au tout début, on était plutôt sur des publics qui avaient envie de découvrir l'Europe, qui étaient curieux. On a eu aussi un événement important, le plus grand élargissement de l'Union européenne aussi, avec 10 pays qui sont rentrés d'un coup. Et donc là, on a vécu vraiment une envie vraiment de mieux comprendre l'Europe, de voir comment on peut travailler avec l'Europe. Et puis ça s'est un petit peu essoufflé, on a vu, aux différentes élections européennes aussi. Et donc là, on repart sur une envie d'Europe, une envie de connaître l'Europe, mais il faut la réveiller, cette envie. On aura toujours des gens qui seront contre l'Europe, etc. Mais on sent qu'il y a un réveil aussi, et notamment parce que l'Europe a donné un nouveau cap, le pacte vert pour l'Europe, avec l'ambition d'être neutre climatiquement en 2050, et avec des domaines bien précis d'action qui nous permettent justement d'être encore plus concrets auprès des citoyens et de leur faire mieux découvrir cette Europe.
Alors là, c'est un exemple concret, ce pacte vert pour l'Europe et numérique. Avez-vous d'autres exemples de soutien de l'Union européenne sur les territoires ruraux du Calvados, de l'Orne et de la Manche ?
Oui, je parle du pacte vert pour l'Europe et de la stratégie numérique européenne. En fait, on n'est pas, c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose que l'Union européenne sort de son chapeau parce que c'est tendance. Depuis, je disais, moi quand je suis arrivée, c'était un colloque sur les déchets déjà à l'époque. Pendant cette période de confinement, par exemple, on a beaucoup parlé des circuits courts, de la reconnaissance des producteurs locaux. Mais l'Europe, depuis très longtemps, du coup, subventionne ces circuits courts et essaie de d'aider à la structuration, etc. Des circuits courts. Et par exemple, on peut citer dans la Manche le drive Cababio à Coutances, par exemple. On peut aussi citer dans l'Orne un pôle commercial multiservice à Crulé, par exemple. On a aussi différentes implications de l'Europe, et notamment vous parliez de la stratégie numérique de l'Europe qui est liée au pacte vert, hein, parce que le numérique, il faut pas l'oublier, il faut surtout pas qu'il abîme aussi l'environnement. Et ce numérique aussi, il faut arriver à trouver du sens aussi sur son utilisation. Et par exemple, les jeunes de la mission locale à Saint-Lô bénéficient justement de badges numériques pour faire reconnaître leurs connaissances en dehors des diplômes. Et donc ça, c'est cofinancé par l'Union européenne. Dans l'Orne, il y a un tiers-lieu qui permet de fabriquer des prototypes, qui permet de se rencontrer, qui permet du numérique. Et ce tiers-lieu qui s'appelle les Labos, dans les collines, communautés de communes des collines normandes du Perche, est aussi soutenu par l'Europe, et est vraiment un lieu de partage et de connaissances, de meilleures connaissances aussi du numérique.
Merci Bénédicte Feugère de nous avoir présenté tout ce que vous faites au Créant, le carrefour rural européen des acteurs normands. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux, vous avez une page Facebook, vous avez également un site internet. Et puis on vous souhaite bon voyage, puisque vous aussi vous allez faire votre premier Erasmus, vous allez partir prochainement vers une destination européenne.
Merci beaucoup,
à bientôt. Au revoir, bon voyage.